Septième soirée, nous lisons le psaume 82. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des juges. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et ferez-vous acception de la personne des méchants? Selah. Faites droit aux misérables et à l'orphelin. Faites justice à l'affligé et aux nécessiteux. Délivrez le misérable et le pauvre, sauvez-le de la main des méchants. Ils ne connaissent ni ne comprennent. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. Moi, j'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme un homme et vous tomberez comme un des princes. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu hériteras toutes les nations. Jugement des nations. Qui deviennent l'héritage de Christ et de l'Église? Le dernier verset de ce psaume renferme le sujet qui doit nous occuper ce soir. Ô Dieu, lève-toi, juge la terre, car tu auras en héritage toutes les nations. C'est Dieu qui doit juger la terre et, à la suite de ce jugement, avoir en partage toutes les nations. Nous avons parlé de Christ, héritier de toutes choses, avec l'Église, sa co-héritière, puis de l'avènement de Christ, ou du moment où il prend son héritage, et de la résurrection de l'Église, ou du moment où l'Église ressuscitée participe avec lui à cet héritage. Les âmes heureuses avec lui attendent elles-mêmes la résurrection de leur corps pour jouir de la plénitude, de la bénédiction et de la gloire. C'est pourquoi un chrétien peut désirer la mort, parce qu'il est par là délivré de toute affliction et de toute peine, mais il attend la résurrection pour la consommation de sa gloire. Nous avons parlé du progrès du mal et prouvé que, loin que le monde soit converti par la prédication de l'Évangile, l'ivraie doit croître et mûrir jusqu'à la moisson. Et dans notre dernière soirée, nous avons vu le mal à son plus haut point dans la bête qui va à la destruction, dans l'apostasie de la puissance civile de la quatrième monarchie et dans le faux prophète qui exerce sa puissance devant elle et qui est détruit avec elle. Nous avons vu qu'il y a deux bêtes et que la seconde se transforme dans le faux prophète. Comparer Apocalypse chapitre 13 avec la fin du chapitre 19. Maintenant, la scène s'étend un peu et nous verrons non seulement la quatrième bête détruite, mais toutes les nations jugées, toutes les races d'hommes qui existent sur la terre, qui se sont formées à la suite de la division des enfants de Noé, se trouveront à la fin rassemblés et jugés de la part de Dieu. Tout ce qui est hautain, orgueilleux, sera abattu par la puissance et la gloire de Dieu, afin que Dieu, dans une pleine bénédiction, jouisse du royaume et qu'il ait l'héritage de toutes les nations. J'ai traité dans notre dernière réunion la partie la plus difficile, le point où les deux économies se rencontrent et où le mal causé par l'apostasie de l'économie actuelle exige l'intervention de Dieu et, par conséquent, le jugement qui termine cette économie. J'ai parlé de cette apostasie de l'Antichrist spécialement parce que c'est en effet la consommation même de l'apostasie. Mais, du moment que l'événement a lieu, il y a aussi le jugement de toutes les nations. Dieu ne juge pas seulement la révolte dernière de l'Antichrist ou de la bête, mais ayant fait éclater sa puissance, le moment de sa colère étant venu, il juge toutes les nations. C'est ce qui se lit en Apocalypse 11, versets 15 à 18. Alors le septième ange sonna de la trompette, et il y eut de grandes voix dans le ciel qui disaient : Le royaume du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Et les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur leur face et adorèrent Dieu, disant : Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui vient, de ce que tu as pris en main ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Et les nations se sont émues de colère, et ta colère est venue, et le temps de juger les morts et de donner le salaire à tes serviteurs, les prophètes, et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, aux petits et aux grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Poursuivons les passages qui traitent du même sujet. Nous avons vu que le Seigneur Jésus, le Messie, le vrai roi de toute la terre, s'est présenté à la quatrième bête et aux Juifs, c'est-à-dire aux gentils et aux Juifs. Aux gentils, dans la personne de Ponce Pilate, et aux Juifs, dans la personne des sacrificateurs. Il s'est présenté au monde et aux siens, et il a été rejeté. Mais nous verrons qu'il est un sens beaucoup plus étendu, dans lequel il est dit que les nations sont irritées et que la colère de Dieu éclate contre elles par le jugement de son Fils. Psaume 2, nous voyons là deux choses. Premièrement, que le Fils est sacré roi sur Sion, la montagne de sa sainteté, et qu'il a l'héritage des nations. Sion, voilà son trône, mais son héritage, ce sont les nations. Secondement, sa manière de traiter ces nations, manière tout à fait opposée à l'Évangile, tu les briseras avec un sceptre de fer. Le sceptre de Christ, employé comme figure de l'Évangile, est un sceptre de bonté et d'amour. C'est tout ce qu'il y a de plus doux, de plus puissant dans son amour. Ce n'est point un sceptre de fer. Il s'agit là des rois de la terre. Maintenant donc, ô roi, adorez le Fils. Le décret de Dieu est que son Fils soit sacré, c'est-à-dire que Dieu a voulu établir Jésus roi de toute la terre, et il invite les rois de la terre à se soumettre à lui. Il leur dit : Je vais parler dans ma colère, je donne l'héritage des nations à Christ, il vous brisera avec un sceptre de fer, il vous mettra en pièces. Maintenant donc, soumettez-vous à lui, à mon Fils, roi en Sion. Ces rois suivent leur propre démarche. Leur parti est pris selon la sagesse de l'homme, et ce n'est pas à Christ, roi en Sion, qu'ils pensent. Allez parler au roi de la terre de Christ, roi en Sion, si vous passeriez aussitôt pour être hors de sens. Cependant, Dieu l'a arrêté certainement, irrévocablement, et c'est ce qu'il fera malgré les rois de la terre. Il établira Christ roi en Sion et lui donnera pour héritage les nations et pour sa possession les bouts de la terre. Maintenant, dit-il par la bouche de Michée, il sera grand jusqu'au bout de la terre. À la naissance de Christ, nous voyons la haine éclater à la moindre apparence de sa royauté. Dès qu'on entend dire « il y a un roi », on cherche à s'en défaire. Mais enfin, est-ce que les nations écouteront l'invitation qui leur est faite de se soumettre à lui? Nous trouvons la réponse dans le psaume 82. Il faut que ces juges de la terre, ces Elohim, rendent compte de leur conduite. Ils ne connaissent ni n'entendent rien. J'ai dit, vous êtes des dieux, parce que Dieu lui-même les avait placés comme ayant une autorité sur la terre, et parce que les puissances qui existent sont établis de Dieu, mais Dieu peut les juger. Ce ne sont pas les chrétiens qui tiennent le langage ci-dessus, c'est celui qui a le droit de juger ce qu'il a nommé juge, de destituer ses puissances subalternes afin de faire éclater sa grande puissance et d'agir en roi. Nous voyons encore, psaume 9, versets 1 à 7, que le lieu où ce jugement s'exercera est la terre d'Israël, et que le Seigneur se révélera par cet acte de sa puissance. Verset 6, « Tu as réprimé fortement les nations, tu as fait périr le méchant, c'est-à-dire l'Antichrist, tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité. » La fin du psaume, versets 15 à 20, n'est pas le langage de l'Évangile, c'est la demande prophétique, la juste demande du jugement. C'est là ce qui explique les psaumes dans lesquels les chrétiens trouvent quelquefois de fort grandes difficultés, faute d'avoir compris la différence des économies. Convertir le méchant, lui faire grâce, voilà l'Évangile. C'est tout autre chose ici, parce que ce n'est pas l'Évangile. Mais une fois que l'Évangile a eu son cours, c'est Christ qui réclame le jugement contre le monde. Ce n'est pas Christ à la droite du Père pour envoyer le Saint-Esprit et assembler ses cohéritiers, mais c'est Christ demandant justice, la demandant ordinairement par son Esprit dans les humbles et les débonnaires de la nation juive, contre l'homme orgueilleux et violent. Si Dieu n'exécutait pas le jugement, le mal ne ferait qu'empirer, sans qu'il y eût aucun soulagement pour les fidèles. Dieu ne l'exécute que lorsque le mal est arrivé à son comble. L'Antichrist et les nations s'élèveront contre Dieu et contre son Christ, et il faudra que la terre soit débarrassée de ses ennemis pour faire place au règne de Dieu lui-même. Ce n'est pas David demandant à dominer sur ses ennemis, mais c'est Christ qui demande le jugement parce que le moment est venu. Dans le psaume 10, vous verrez encore cette même vérité. L'Éternel est roi et les nations ont été exterminées. J'ai voulu, chers amis, vous faire remarquer comme principe général dans ces psaumes le jugement terrible de Dieu sur la méchanceté des nations, Dieu agissant en juge au milieu des juges. Un passage, Ésaïe chapitre 2, versets 12 à 22, nous présente encore le grand jour de Dieu sur la terre. Il y a un jour assigné par l'Éternel des armées contre tout orgueilleux et hautain pour châtier la terre. Ce n'est pas pour le jugement des morts, c'est pour le jugement de la terre. Pour vous faire voir encore que ce jugement s'appliquera à toutes les nations et que c'est par ce moyen que Dieu veut remplir la terre de la connaissance de son nom, je vous cite Sophonie chapitre 3 verset 8. « C'est pourquoi attendez-moi, dit l'Éternel, au jour que je me lèverai pour le dégât. Car mon décret est d'assembler les peuples et d'amasser les royaumes pour répandre sur eux toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de mon courroux sera consumée toute la terre. Voilà l'ordonnance de Dieu, c'est d'assembler les nations afin de répandre sur elles son indignation. C'est là un jugement terrible. » Pour ce qui concerne notre attente à tous, que la connaissance de l'Éternel remplisse la terre, c'est ce que nous voyons au verset 9. La chose arrivera après qu'il aura exécuté le jugement et chassé les méchants. Ce passage est une révélation très explicite. Pour le dire en passant, la même vérité que la connaissance de Dieu se répandra par l'effet de ses jugements, nous est présenté. Ésaïe 26, versets 9 à 11. Est-il fait grâce? L'homme n'apprend pas la justice, mais il agira méchamment en la terre de droiture. Mais lorsque les jugements de Dieu sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Certainement, l'ordonnance de l'Éternel est d'assembler les royaumes afin de répandre sur eux son indignation et toute l'ardeur de sa colère. Ce sera un jour terrible et un jour auquel le monde doit s'attendre. Un autre passage à l'appui de la même vérité se lit, psaume 110. L'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Jésus est assis à la droite du Père jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour son marchepied. Jusque-là, il agit par son esprit pour assembler les chrétiens. Il envoie le Saint-Esprit, consolateur ici-bas, pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais Dieu mettra un jour les ennemis de Christ pour marchepied de ses pieds. Et c'est pourquoi Jésus dit que le Fils même ne connaît pas le jour où ces choses doivent arriver. Il a été écrit qu'il doit hériter de toutes choses. Voilà ce qui a été prophétisé de moi. L'Éternel m'a dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie réduit tes ennemis à être ton marchepied. Ce n'est pas telle année, tel jour, mais je vais être assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que, c'est-à-dire jusqu'au moment où le Père accomplira ce conseil. Car le Seigneur Jésus, toujours Dieu éternellement béni, reçoit comme homme médiateur le royaume. Or voici l'accomplissement du décret. L'Éternel transmettra de Sion le sceptre de ta force. Nous voyons le terme de cette économie très clairement marqué, c'est-à-dire Christ assis à la droite de l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel mette ses ennemis sous ses pieds. Après cela, il dit, « Domine au milieu de tes ennemis. » Voilà ce que l'Éternel accomplira encore lorsque le Seigneur, au moment où sa puissance devra s'exercer, froissera les rois au jour de sa colère, exécutera son jugement sur les nations, remplira tout de corps morts et brisera le chef qui dominait sur un grand pays. Jérémie, chapitre 25, verset 28. C'est un sujet continuellement présenté à nos âmes par la parole de Dieu, et c'est la fin de tout ce que nous voyons autour de nous. Or, il arrivera qu'ils refuseront de ta main la coupe de jugement, mais tu leur diras, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, vous en boirez certainement. » Et voyez le verset 31. Il est encore deux points que je dois vous faire remarquer. Premièrement, c'est à Jérusalem, surtout, que tout ce désastre aura lieu. Secondement, Dieu a nommé toutes ces nations dans sa parole, et nous verrons reparaître sur la scène, au moment du jugement de Dieu, tous les descendants de Noé, dont nous trouvons le catalogue dans la Genèse, chapitre 10e. Nous les retrouverons à peu près toutes sous l'Antichrist ou sous Gog. Quant au passage qui concerne Jérusalem, nous pouvons citer Joël chapitre 3, versets 1 et 9 à 17, Michée chapitre 4, verset 11, jusqu'à la fin du chapitre, Zacharie chapitre 12, versets 3 à 11. Et il arrivera dans ce temps-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations se rassembleront contre elle. En ce jour, dit Jéhovah, je frapperai de stupeur tous les coursiers et de démence ceux qui les montent. Mais j'ouvrirai les yeux sur Juda, et tous les coursiers des peuples seront frappés d'aveuglement. Et les chefs de Juda diront dans leur cœur, « Ils font ma force, les habitants de Jérusalem, de par Jéhovah des armées, leur Dieu. » En ce jour, je ferai des chefs de Juda un foyer ardent au milieu du bois, une torche enflammée parmi les gerbes. Ils consumeront à droite et à gauche les peuples d'alentour. Et Jérusalem sera encore habitée dans son emplacement. Jéhovah garantira les tentes de Juda avant tout, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvent point par-dessus Juda. En ce temps-là, le Seigneur protégera les habitants de Jérusalem, et le plus faible de ses guerriers sera aussi fort que David. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de Jéhovah devant eux. Et il arrivera qu'en ce temps-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui marcheront contre Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de prière. Et ils me regarderont, moi qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur moi comme on pleure sur un fils unique, et seront dans l'amertume sur lui comme on est dans l'amertume sur un premier-né. En ce jour-là, il y aura un grand gémissement dans Jérusalem, comme le gémissement à Hadad-Rimon dans la vallée de Megiddo, chapitre 14, versets 3 et 4. Alors l'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme le jour où il combattit au jour du combat. Et ses pieds seront debout, ce même jour-là, sur la montagne des Oliviers, vis-à-vis de Jérusalem, à l'Orient. Et la montagne des Oliviers sera fendue par le milieu, de l'Orient à l'Occident, par une grande vallée, et sera séparée, la moitié vers l'Aquilon, et la moitié vers le Midi. Il est dit, acte chapitre 1er, que Jésus reviendra de la même manière qu'on l'a vu monter, c'est-à-dire sur la montagne des Oliviers. Comparez Ézéchiel chapitre 11, verset 23. Dans ce jour-là, ses pieds se tiendront debout sur le mont des Oliviers, dit l'Esprit par Zacharie, chapitre 14, verset 4. Ses pieds, les pieds de l'Éternel. Bien qu'il ait été homme de douleur, Jésus est l'Éternel comme il l'a été depuis l'éternité. Quant au second point à remarquer, c'est que les nations, les descendants de Noé, se trouveront soit sous l'Antichrist, soit sous Gog, les deux principales puissances. Si vous consultez le 10e chapitre de la Genèse, vous y verrez, verset 51, les îles des gentils divisées par leur terre dans le dénombrement des enfants de Japhet. Vous avez Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Mézec et Tiras. De ces peuples, vous trouvez Gomer, Magog, Tubal, Mézec sous les mêmes noms dans Ézéchiel au chapitre 38, à la suite de Gog. Vous y trouverez aussi Pérès, ou les Perses, qui étaient unis à Madaï, et des mains duquel il reçut la royauté, comme nous le voyons dans Daniel chapitre 3 et ailleurs, de sorte que de ces nations, il ne reste en dehors que Javan et Tiras. Ce sont toutes les nations qui comprennent la Russie, l'Asie mineure, la Tartarie et la Perse. Toutes les peuplades dont se compose la Russie ou qui sont sous son influence, sous la domination de Gog, prince de Ross, Mézec et Tubal. De ceci, il est vrai, Canaan a été détruit et son pays est devenu celui d'Israël. Cush et Put se trouvent sous Gog, Ézéchiel 38, verset 5. Ceux de Cush seulement en partie. Et voici pourquoi. Une partie de la famille de Cush s'établit sur l'Euphrate, une autre sur le Nil, c'est-à-dire au nord et au midi d'Israël. Ceux du nord sont donc, par leur position, en rapport direct avec les partisans de Gog, Mitzraïm ou l'Égypte, car Mitzraïm n'est que le nom hébreu qui désigne l'Égypte. Le reste de Cush et de Put, vous les retrouverez, Daniel chapitre 11, verset 43. Maintenant, parmi les enfants de Sem, Élam est la même chose que le pays des Perses, dont nous avons déjà parlé. Assur se trouve nommé dans le jugement qui aura lieu dans les derniers temps, Michée chapitre 5, Ésaïe 14, verset 25, 30, verset 33. Dans la conspiration du psaume 83 et dans d'autres endroits aussi. Arpaxad est un des ancêtres des Israélites. La famille de Joktan manque ici. C'est un peuple de l'Orient. Aram ou Syrie a été déplacé par Assur et se trouve indiqué sous le titre de roi du Nord. Il en est de même de Lud, à ce qu'il paraît. Javan se trouve dans le dernier combat, Zacharie 9, verset 13. De toutes ces nations, Tiras est la seule, outre Joktan, qui ne se trouve pas nommée pour ce dernier jugement. Je ne parle que de la parole de Dieu. Les auteurs profanes réunissent Tiras à Javan, mais je n'ai pas à m'en occuper. Aujourd'hui, nous voyons la Russie étendre sa puissance précisément sur les nations qui se trouvent sous Gog. Dans le 11e chapitre de Daniel, il y a deux autres puissances auxquelles il faut faire attention, le roi du Midi et le roi du Nord. Ce chapitre renferme d'abord une longue histoire d'événements déjà accomplis, mais viennent après cela les navires de Kittim, verset 30, puis il y a une interruption dans leur histoire. Ces rois ont été les successeurs du grand roi de Javan. L'un est celui qui possédait la Syrie, l'autre l'Égypte. Le sujet de leur combat était la Syrie et la Terre Sainte. Au verset 31 et 35, nous avons les Juifs qui sont laissés de côté pendant longtemps. Il est dit « Parmi les intelligents, beaucoup tomberont » pour être épuré et purifié jusqu'au temps de la fin, car la chose est différée jusqu'à un temps déterminé. Et puis, verset 36, le roi fera selon sa volonté. C'est l'Antichrist. Au verset 40, nous le voyons dans le pays d'Israël, dans ce territoire cause du différend qui existe entre le roi du Midi et le roi du Nord. Et au temps déterminé, à la fin, le roi du Midi choquera avec lui de ses cornes, c'est-à-dire qu'après un long intervalle, voilà de nouveau le roi du Midi sur la scène. Eh bien, ce n'est que depuis 4 ans que cela a lieu, après un intervalle d'à peu près 2000 ans. La plupart des nations qui sont au pied de Gog, nous les voyons maintenant au pied de la Russie. Mais le roi du Nord se lèvera comme une tempête contre lui. L'Antichrist sera l'objet de l'attaque à la fois du roi du Midi ou d'Égypte et du roi du Nord, possesseur de la Turquie asiatique ou Assyrie. Je ne dis pas quel sera le roi du Nord à la fin, mais nous voyons que les circonstances et les personnages décrits dans ces prophéties qui regardent ce temps déterminé, commencent à paraître. Il y a déjà 2000 ans que le roi du Midi a cessé d'exister, et depuis quelques années, il est de nouveau sur la terre. De même, nous voyons un peuple qui était ignoré il y a un siècle, et qui aujourd'hui domine exactement sur les mêmes pays que le Gog d'Ézéchiel. Je ne désire pas arrêter votre attention sur des événements qui arrive de nos jours. Mais c'est après avoir expliqué la prophétie que nous mentionnons ces circonstances qui se passent devant nous. Nous voyons également toutes ces nations commencer à s'occuper de Jérusalem, Zacharie 12, verset 3, et ne savoir que faire. Le roi d'Égypte demande tous ces pays pour lui. Le roi du Nord ne veut pas les céder. C'est le Turc qui possède maintenant le Nord ou le pays d'Assyrie. Nous avons maintenant le roi du Nord et le roi du Midi combattant pour le même pays qu'ils se sont disputés il y a 2000 ans passés. C'est justement ce qui est dit ici de voir arriver au temps déterminé. Je ne dis pas que tout soit encore manifesté. Par exemple, les 10 rois ne sont pas encore pleinement en évidence. L'Antichrist n'a pas encore paru. Mais les principes qui sont dans la parole de Dieu agissent visiblement au milieu des royaumes où les 10 cornes doivent paraître. C'est-à-dire que nous voyons toute l'Europe occidentale s'occuper de Jérusalem, se disposer pour ce combat, et la Russie se préparait de son côté, exercer sa puissance sur les pays cités par la parole, et toutes les pensées des hommes politiques du monde se concentraient sur la scène où doit avoir lieu leur rencontre finale. Devant le jugement de Dieu, où l'Éternel les assemblera comme les gerbes dans l'air, Michée chapitre 4, verset 12. C'est une coïncidence très remarquable. En retraçant ce qui se passe autour de nous, nous reconnaissons ce qui se trouve dans la prophétie. Du moins, nous voyons que ceux qui doivent agir ou sur lesquels Dieu doit agir se montrent parfaitement avec les caractères que signale la prophétie. Eh bien, chers amis, si vous prenez la peine de suivre ces chapitres que je viens de vous citer, il y en a d'autres que vous pouvez trouver sans doute, vous comprendrez alors le chapitre 25 de saint Matthieu qui nous parle du Seigneur assis sur son trône et assemblant toutes les nations, c'est la citation de Joël 3, les jugeant et les séparant comme on sépare les brebis d'avec les boucs. Maintenant, souvenons-nous d'une chose, nous chrétiens, c'est que nous sommes pleinement à couvert du jugement. Ce soir, je n'ai pas parlé de l'Église, mais souvenons-nous de sa situation, c'est-à-dire que pendant ces événements, même dès à présent, la place de l'Église est d'être avec Christ, de l'accompagner. L'Église a ce privilège, cette gloire, ce caractère spécial d'être uni avec Jésus-Christ. Et si l'on cherche l'Église dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ que l'on trouve. Un exemple frappant de cette vérité, c'est ce que saint Paul dit de l'Église, Romains chapitre 8, se trouve dans le chapitre 50e d'Ésaïe, où le Christ dit « Qui est-ce qui me condamnera ?» L'Église étant unie à lui. L'union de l'Église en un seul corps, soit juif, soit gentil, n'était pas encore dans l'Ancien Testament. Si on l'y cherche, c'est Christ lui-même que l'on trouve. Quoiqu'il y ait bien des choses dans les relations de l'Éternel avec Sion, qui se retrouvent dans les relations de Dieu le Père avec l'Église, cependant, ce n'est pas en Sion qu'on doit chercher l'Église. Dans l'Ancien Testament, les privilèges de l'Église sont en Christ lui-même. C'est dans la personne de Christ, parce que l'Église a la même part que Christ. C'est elle, voir Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23, qui est l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tous. Par conséquent, nous ne pouvons pas chercher l'Église dans ses prophéties parce qu'elle est le corps de Christ lui-même. C'est Christ qui jugera. Nous avons vu que Christ doit frapper, briser les nations. Eh bien, cela est dit aussi de l'Église. L'Église n'a rien à faire avec tout ce dont nous venons de parler dans le sens qu'elle y soit assujettie. Apocalypse, chapitre 2, versets 26 et 27. Sa place n'est pas d'être au milieu des nations qui seront brisées, mais d'être réunis à Christ, ayant les mêmes privilèges que Christ, et brisant les nations avec Christ. Il n'y a rien de vrai à l'égard de Christ quant à la place qu'il a prise comme homme glorieux, qui ne le soit aussi de l'Église. Il est toujours précieux pour nous de comprendre notre place, celle de cohéritier de Christ, et plus nous y penserons, plus nos forces seront multipliées, plus nous serons dans nos esprits comme des héritiers de Dieu, détachés de ce monde qui est jugé, en contraste avec l'Église qui est justifiée. L'Église est justifiée. Nous n'en voyons pas encore l'effet parce que la gloire n'est pas encore venue. Le monde est jugé, nous n'en voyons pas encore l'effet parce que le jugement n'est pas encore venu. L'Église n'a les fruits de la justification que dans la gloire. Le monde n'a les fruits que dans le jugement. Néanmoins, il est vrai que l'Église est unie à Christ. Le monde est jugé parce qu'il a rejeté Christ. Père juste, dit le Sauveur, le monde ne t'a pas connu. Et voilà ce que la grâce a fait pour nous. De même que l'incrédulité sépare entièrement et pour l'éternité de Christ, la grâce, par la foi, nous a unis entièrement et pour l'éternité à lui, et nous devons en bénir Dieu.